Rendez-vous.
Rendez-vous.
Qu'est-ce que vous faites ce soir?
Ce soir?
Oui. Rendez-vous.
Rebonsoir à toutes et à tous, c'est le NRV la suite au programme ce soir. L'Afrique qui s'expose et se surexpose en ce moment. Elle sera au centre du prochain festival d'Avignon, au niveau du théâtre et de la danse. Et actuellement, l'art contemporain africain devient l'enjeu de tous les désirs avec une théorie d'exposition. À Paris, à la Grande Halle de la Villette, à la Fondation Louis Vuitton, au Grand Palais, au Musée d'Apeur, à Lille, Gare Saint-Sauveur et à Toulouse, aux abattoirs. Alors que se passe-t-il? Hasard de programmation? Non, on n'y croit pas. Force de frappe? Oui. Mais pourquoi? Peut-être d'abord pour se rappeler qu'il y a 28 ans, une exposition devenue historique avait mis en lumière cet art contemporain méconnu. C'était les magiciens de la Terre. Mais en 28 ans, il s'en est passé des choses dans ce monde de l'art africain dont on n'a pas vraiment pris la mesure. Alors aujourd'hui, quelle place pour les arts de l'Afrique sur la scène artistique internationale? Quels enjeux pour les marchés? Quel regard la France porte en 2017 sur les œuvres contemporaines de ce continent qui ne nous a pas attendus pour entrer dans l'histoire de l'art? Art contemporain, une saga Africa, c'est le titre de Christophe Bourseiller. On va en parler ce soir au NRV. Oh, c'est facile, mais c'est efficace. Oui. Avec vous, Simon Djami, c'est à vous qu'on doit les expositions parisiennes et lilloises Afrique Capitale. Bonsoir.
Bonsoir.
À vos côtés, Nabil Boutros, vous êtes artiste et photographe. Bonsoir.
Bonsoir.
Juste à côté, face à moi, André Magnien, vous êtes le spécialiste de l'art contemporain africain et le maître d'œuvre de la collection de Jean Pigozzi, actuellement présentée à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Bonsoir.
Je ne sais pas si je vais vous dire bonsoir, parce que les spécialistes...
Il y en a plein, bien sûr, mais bon, c'est comme ça qu'on vous présente aussi.
Bonsoir.
Bonsoir. Et Katia Kameli, elle est artiste pluridisciplinaire franco-algérienne et elle devrait nous rejoindre dans quelques instants. Et bien voilà, le NRV, la suite, ça peut recommencer.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Un sujet qui vous a inspiré, l'art africain contemporain?
Écoutez, je me demande si ça m'a inspiré, parce que contrairement à tous les spécialistes qui sont autour de la table, je suis un peu un néophyte en la matière. Et je l'avoue, Laurent, écoutez, franchement, je vous le dis, je tombe des nues. Hein, parce que pour moi, l'art africain, ce sont des statuettes primitives, des bas-reliefs, des objets religieux, des danses, ce qu'on nomme ordinairement l'art nègre. Mais voici qu'avec au moins trois grandes expositions, vous l'avez dit vous-même, Afrique Capitale, Art Afrique et Vers le Cap de Bonne-Espérance, et de première se tenant à Paris, la troisième à Lille, je découvre un continent artistique complètement occulté. Un mot analogue, ça c'est pour faire un peu un télo, pour citer René Daumal. La culture contemporaine en Afrique, c'est une pléiade d'artistes qui ont pour point commun, ça je trouve ça intéressant, d'être profondément urbain, citadin. Ça sent le bitume chauffé à blanc, ça sent le macadam en fusion. On est loin du cliché sur la tribu au cœur de la jungle. Donc l'Afrique bouge, bon d'accord, sur le plan de l'art. Mais jusqu'à quel point? Assistons-nous à une révolution culturelle africaine ou bien seuls certains pays sont-ils touchés? Mieux encore, l'art africain existe-t-il en tant que tel? Qu'y a-t-il d'africain dans l'œuvre de William Kentridge ou dans celle de Joël Andriano Meharisoa? Enfin, il nous faut poser, c'est important aussi je crois, la question arabe. Ce soir, nous recevons deux artistes africains qui ne sont pas subsahariens. Alors, est-ce que cette culture arabe, on doit la classer à part, ou le rêve panafricaniste dont rêvait le colonel Kadhafi est-il en train de se réaliser sur le plan de la culture?
Alors, je veux beaucoup que je sois posé.
Simon Djami, une question de base que pour le néophyte que je suis, en quoi cet art contemporain africain, forcément pluriel, c'est ce que vous dites, est-il justement africain?
Est-ce que j'aime bien dans votre introduction, mon cher Christophe Bourseillier, c'est que vous êtes à peu près la représentation du français moyen.
Mais je vous remercie.
Et je pense que c'est ça.
Mais
qui...
il s'en est fait.
Non, absolument.
Il s'en est fait un devoir.
Non, mais il l'a fait magnifiquement, avec quel brio. Et je pense que c'est ça qui justifie un petit peu cette espèce de détonnement, d'engouement. Et j'en parle de vagues, de ceci, de cela, comme si tout d'un coup l'Afrique venait de naître. Et tout ça est assez amusant. Mais qu'est-ce qu'il y a d'africain dans l'art contemporain africain? Je n'en sais fichtre rien.
Mais peut-être qu'André Magnien va nous éclairer. André Magnien, vous dites que Warhol est profondément américain, Daniel Buren est profondément français. Du coup, je me demande, vous qui avez notamment beaucoup travaillé sur le Congo, quel serait pour vous l'artiste africain le plus profondément congolais? Est-ce qu'il existe un art contemporain africain?
Alors moi, j'ai Bruny Boivré m'a fait promettre, c'est un monument de l'art africain, on peut dire, enfin, un monument de l'art tout court, mais il s'avère qu'il est africain, et il voit rien et pas congolais. Il m'a fait promettre avant de nous quitter que de dire avant toute émission les bateaux. Alors on peut y aller.
Donc, on peut y aller, mais dites donc, vous avez gagné quoi comme pari?
Pardon?
Vous avez gagné quoi comme pari?
Enfin, Brûlé est mort, donc.
Oui, il est mort. Justement, bah, oui, non, mais justement.
Donc, je l'entretienne, mais moi.
J'ai bien compris.
Donc,
après les bateaux.
Non, moi, je suis d'accord avec Simon. C'est pas pour être d'accord avec lui. On aime bien se chamailler, mais.
T'inquiète pour vrai, chamailler.
vous me posiez la question par rapport à l'art congolais, n'est-ce pas, c'est ça?
Oui. Quel serait l'artiste plus profondément congolais, puisque vous dites que Warhol est profondément américain, ouais, que Buren est profondément français. Donc, ouais, J'imagine qu'il y a des artistes qui sont profondément africains.
Mais c'est bien sûr qu'il y a des artistes qui sont profondément africains, je veux dire, de la même manière que Kiefer est profondément allemand ou Buren profondément français,
alors en quoi...
même s'ils sont mondiaux.
D'accord. Mais alors, en quoi on pourrait définir cette africanité dans leur art, par exemple? Si vous prenez un exemple.
Alors, Simon, dans ses fiches, très rien, mais lorsqu'on navigue à Kinshasa, par exemple, parce que c'est une ville que j'aime beaucoup pour beaucoup de raisons, on se rend compte qu'un Chéri Samba, par exemple, pour ne citer que celui-là.
Photographe.
Non, pas lui.
Ah non, c'est pas lui, c'est
non,
l'autre.
Non, désolé. Photographe. Deux paras, c'est terminé. Para aussi.
Oui, oui. C'est celui qui fait les grandes peintures avec justement
Alors, lorsqu'on sillonne Kinshasa de nuit et jour, on comprend que Chéri Samba est profondément congolais. Ça ne l'empêche pas. Alors, pendant longtemps, certes, il s'est mis au cœur de ces tableaux pour transmettre l'actualité, notamment dans un contexte politique, économique, culturel précis qui est celui de Kinshasa. Mais c'est vrai qu'avec cette reconnaissance, parce que il y a bien longtemps qu'on ne pense plus l'Afrique qu'en termes de d'art classique, mais quand même, on sait aujourd'hui qu'il y a 100 ans d'histoire de l'art moderne et contemporain en Afrique, et donc Chéri Samba est un de ceux qui, en effet, en 89, le magistrat de la Terre fut présenté, il y en a eu beaucoup d'autres, eh bien, il est profondément congolais par le fait qu'il on le sent bien au cœur d'une ville où il y a de la couleur, il y a du mouvement, il y a du sens, il y a de l'humour, il y a
le sens de l'image
particulière auquel on s'oppose. Et Chéri Samba, qui est au cœur, transmettre l'information comme vous à France Inter, et aujourd'hui il se met au cœur de ces tableaux pour une actualité plus mondiale.
Simon Djemma.
Njami. Décidément.
J'ai un problème. Non, mais j'ai bu un petit peu de votre cas tout à l'heure, manifestement.
Terrible. Non, mais ce que, quand vous citiez André, il disait Warhol est profondément américain, Buren est profondément français, et ensuite vous avez un petit peu glissé sur l'Afrique.
Ouais. Qui est un continent et qui n'est pas un pays, je sais.
Donc, ouais. Pascal.
C'est pour ça que je disais congolais au départ.
Martin Taillou est très camerounais, et je pense que tous les artistes venus d'Afrique revendiquent une racine de leur pays, de leur terroir. On vient d'où l'on est. Mais je pense qu'il y a un moment, ils ont été un petit peu agacés, d'abord d'être déplacés, parce que quand on est camerounais, on n'est pas congolais, et d'être dans cette espèce de grand chapeau qui était comme une poubelle pour le pire, ou un vaste machin pour le mieux, où on mettait tout ce qu'on ne pouvait pas qualifier. Donc on disait africain, et il y avait un grand sac comme ça.
Oui, comme on parle de danse africaine, alors qu'il existe des danses africaines contemporaines, bien entendu.
Absolument. Et donc je suis persuadé que tous ces artistes, qu'ils vivent sur Mars ou au Pérou, sont totalement ancrés dans l'africanité. Mais c'est la définition de ces racines qui parfois est...
Bon, alors est-ce que ça a un sens aujourd'hui de présenter des expositions il y a quand même une concordance de temps, on va dire. Il y a quand même 4 ou 5 expositions en ce moment sur l'art africain contemporain. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou ça ne veut absolument rien dire? C'est juste un effet d'annonce.
Je pense que ça ne veut absolument rien dire. Je pense que c'est un effet d'annonce. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont servis du mot « saison ». Alors, je sais que le ministère des Affaires étrangères français organise des saisons, et sont toujours des saisons nationales. Et puis les saisons sont des choses qui sont orchestrées par ce fameux ministère. Or là, j'ai l'impression qu'il y a juste un concours de circonstances et un tas de choses qui se sont passées. Lima faisait son projet. Ouais, le projet de la Villette, c'est à Dakar qu'il a été décidé, et ainsi de suite.
André Magnin, vous n'êtes pas d'accord?
Bah non, c'est vrai qu'on se trouve cette année avec une multitude de projets, dit-on, africains, mais bien sûr qu'il y a un art africain, mais bien sûr qu'il y a... Vous savez, on a parlé d'art chinois. Alors,
s'il y avait un art africain, par exemple, où est-ce qu'il était montré?
Non.
Est-ce qu'il y avait des galeries? Est-ce qu'il y avait... quelles sont les premières galeries?
Et puis André, c'est pas de ça que je parlais. Je disais simplement que cette espèce cette présence africaine n'est pas un truc, en tout cas pour ce qui me concerne, qui a été concocté. C'est pas une opération.
Évidemment.
Où tout le monde s'est appelé, disons, faisons-le.
Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même...
Ce que je voulais dire pour répondre à Simon, quand même, c'est vrai que l'Afrique, c'est un continent, c'est 54 pays. La Chine, c'est un pays. On a parlé d'art chinois, on a parlé d'art indien, c'est un pays, et on parle d'art africain. Alors, sans doute, y a-t-il d'abord, dans chaque pays en Afrique, au Cameroun, il y en a des bons, au Congo, en Afrique du Sud, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, etc. Et ils sont africains, ils sont sénégalais avant tout, camerounais, congolais, si vous voulez. Bien sûr que ces artistes n'ont pas pu voyager à travers le continent parce qu'il n'y avait pas de structure pour les accueillir. Il n'y a pas de musée, pas de centre d'art, pas de galerie. C'est en train de changer, n'est-ce pas? On peut parler quand même d'art africain dans la mesure où il y a des indices de l'africanité de la même manière qu'il y a des indices de l'européanité.
On peut pas, André, parce que tu fais partie de ceux essentialistes qui, quand ils disent africain, pensent nègre. L'Afrique est un continent, et quand on dit africain, moi je tiens toujours compte du continent. Je suis sûr que quand tu dis africain, quelque part tu penses subsahara.
Mais vous avez dit vous-même, Simon Djami, en 2004 avec Africa Remix, je voulais faire une démonstration de force avec près de 100 artistes et dire « les hordes barbares entrent dans vos palais ». Donc il y avait, à l'époque, peut-être ça a changé puisqu'on est en 2017, une revendication politique pour vous, d'un art africain politique.
Non, je ne parle pas de l'art africain, je parle des hordes barbares. Je fais toujours des choses dans un sens strictement politique. Si j'ai fait une exposition sur la ville à la Villette, c'était pour rappeler à certaines personnes que la ville n'appartient à personne et que ce qui fait la beauté des capitales, c'est précisément le mélange et la mixité.
Bon. Peut-être qu'on peut entendre aussi la voix d'un artiste, Nabil Boutros. Comment vous vous retrouvez dans ce débat? Est-ce qu'il existe un art contemporain africain? Quelles étaient les conditions même d'exercice pour vous? À quel moment vous avez commencé à montrer votre travail, à exposer?
Écoutez, moi je vais encore déplacer le débat.
Très bien.
Qu'est-ce qu'un pays?
Ah bah alors là,
qu'est-ce qu'être déjà?
Je vois bien que vous ne me plaisantez pas.
Il manque un crâne ici pour qu'on puisse Shakespeare.
Dans quelle étagère, etc. Non, sérieusement, étant donné que j'ai eu des éducations multiculturelles, que je me suis déplacé, que j'ai vécu en France longtemps, je suis retourné en Égypte, la situation en Égypte, en tant que vécu, j'étais pas vraiment, quand j'étais en Égypte, j'étais pas un artiste, même si j'ai commencé à faire les beaux-arts. Et puis, plus le temps passe, plus les couches se superposent, plus les souvenirs se superposent de ce que j'ai vécu moi. J'ai grandi quand même en Égypte jusqu'à 21 ans. Et finalement, cette couche de ce que j'appelle le pays, je parle pas de nation, je parle pas de limites géographiques telles qu'on définit le Congo, ou le Cameroun, qui est à moitié ceci, moitié cela, qui a un tel vécu. Non, je parle vraiment de... pour moi, l'Afrique, c'est la Nubie, c'est-à-dire le sud de l'Égypte, une population qui n'a pas été ni islamisée ni christianisée pendant longtemps, qui a été séparée par le 23e parallèle par les Anglais, ou un accord entre les Anglais et les Égyptiens à l'époque. Enfin bref, toujours est-il que le pays dans lequel je vis, il est tout à fait personnel, à savoir pas seulement dans la géographie, le substrat sur lequel je m'accroche, ce sont des objets, des bâtiments, des lieux dans les villes, mais qui sont chargés de mon histoire. Et ce pays-là, il n'existe pas. Voilà. Donc l'africanité, l'Égypte est un carrefour. J'ai adoré le jour où j'ai volontairement à Guggenheim, j'ai dit que l'Égypte n'est pas en Afrique. Là, évidemment, tous les tenants de la thèse d'Anta Diop, on dit mais comment ça, où est-ce que tu crois qu'est l'Afrique, etc., etc. Juste une dernière chose, c'est que l'Égypte est un carrefour. Elle ne peut rien contre ça. Elle est à la fois méditerranéenne, à la fois moyenne-orientale, à la fois africaine.
Eh bien, on va quitter le continent africain, même s'il n'existe pas. Le continent africain existe, c'est l'Afrique qui n'existe pas. Pour la Russie, vu par un Irlandais tout de suite, The Divine Comedy, Catherine the Great.
Catherine the Great, let's talk of love and the power of the state. She was a crazy, spontaneous girl. Everyone paid homage to her. Catherine the Great, there were few brainier. Just ask the king of Lithuania. She could dictate what went on anywhere. She had great hair and a power. A sensitive girl, Catherine the Great, with her military might, she could defeat anyone that she liked, and she looked so bloody good on a horse, but they couldn't wait for her to invade. Catherine the Great.
Catherine the Great, de la musique d'histoire, entonnée par Neil Lennon avec The Divine Comedy dans le NRV.
Le nouveau rendez-vous.
Il m'a dit un rendez-vous.
Laurent Goumard.
Et c'est où le rendez-vous ?
Sur France Inter.
On parle d'art contemporain, on parle du continent africain. Ce soir, on parle peut-être d'art contemporain africain, même si ça semble poser problème. En tout cas, c'est le sujet du NRV. On en parle avec le commissaire d'exposition Simon Djami, le galeriste et commissaire aussi d'exposition André Magnien, les artistes Nabil Boutros et Katia Kameli qui viennent nous rejoindre et qui veut nous parler tout de suite de ce qui s'est écrit dans Le Monde. Qu'est-ce qui s'est écrit dans Le Monde aujourd'hui? Manifestement,
alors,
dans le journal.
Je l'ai lu une fois, donc je ne vais pas vous reciter le. Mais
qu'est-ce qui vous a posé d'agent. Problème?
Non, ça ne m'a pas posé de problème, en fait, justement.
Et qu'est-ce qui t'a intéressé?
Alors, qu'est-ce qui vous a intéressé?
Voilà, c'est en fait, donc. J'ai l'impression que pour une fois, en fait, dans ce papier.
Philippe Dagen, donc, critique au monde.
Je ne sais plus comment il l'a. Quel est le titre?
Vous l'avez? Non, on ne l'a pas, on va le chercher.
En fait, dis-nous.
Bon, alors, peu importe. En tout cas, je pense qu'il essaie de repenser effectivement cette question de qu'est-ce que c'est que l'art africain en dehors d'un territoire.
Vous voyez qu'on n'est pas les seuls, et, Simon Djami.
Voilà, et qu'en fait, il a l'impression. Enfin, ce qu'on entend à la fin de l'article, c'est que finalement le territoire est assez ouvert, que justement dans l'exposition Afrique Capitale, à la recherche de l'art africain, ça s'appelle.
Ça s'appelle le titre.
Et
de l'article.
Que justement dans l'exposition Afrique Capitale et celle de Saint-Sauveur, en fait, il y a une mixité, en fait, voilà, et qui n'est pas comme ce qu'on peut entendre ou voir un peu d'habitude, l'Afrique, voilà, sans le Maghreb ou.
Mais finalement, quand on parle d'art africain, on parle d'un marché. C'est juste un marché qui s'ouvre. Au fond, est-ce que c'est pas tout simplement une démarche mercantile?
Non, il y a sans doute une démarche mercantile. Il y a sans doute besoin de labellisation. Mais il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que ce pays que j'adore se réveille toujours un peu tard, comme hibernatus.
Vous avez dit que c'était pas un pays tout à l'heure.
Ce pays, je parle de la France.
La France se réveille, d'accord.
Je sais de quoi je parle. Ah oui. Vous corrigerez, faites attention. et donc, ce pays que j'aime et que j'adore, on a l'impression qu'il se réveille toujours un peu tard, parce que le marché de cet art-là, il existe un peu partout ailleurs. Et il est d'ailleurs, la seule chose qui m'étonne, c'est pas tellement de définir ce qu'est l'Afrique ou pas, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, alors que la France est en pole position, comme on dit en Formule 1, pourquoi la France a pris tant de retard. Pourquoi est-ce que les collections publiques françaises sont si pauvres? Pourquoi est-ce que la France-Afrique et tout ça, pour le meilleur et pour le pire, pourquoi est-ce que l'Afrique, le continent africain, était traité de cette manière?
À quel moment vous avez commencé à vous intéresser justement à ces productions, vous, André Magnien? C'était pour Jean Pigozzi dont vous avez fondé la collection, en fait.
J'ai commencé les recherches en 86 lorsque nous avons pour préparer de l'exposition Magicien de Terre qui présentait des artistes des cinq continents et non pas seulement des artistes africains, parce que on a l'impression que Magicien de Terre fut une exposition
africaine. Pas du tout. Les Magiciens de la Terre,
je l'ai lu, alors qu'en fait c'est des artistes des cinq continents. On était à l'aube du 21e siècle et à vrai dire l'histoire de l'art était écrite par l'Occident, c'est-à-dire l'Europe, les États et l'Amérique, et on occultait l'Asie, l'Afrique, le Pacifique, on occultait tout. Et aujourd'hui, on se rend compte en fait que, par exemple, le continent africain, l'Afrique, qui est constituée de 54 pays, a écrit à elle seule une histoire en toute liberté de 100 ans d'art moderne et contemporain. Donc, il faudrait se poser la question, mais quand vous parlez de mercantile, de marché aujourd'hui,
on va poser la question.
Toutefois, quand même, c'est pas parce que on montre en ce moment l'art africain, de l'art venu d'Afrique serait présenté dans de multiples institutions aujourd'hui que ça a une relation avec le marché de l'art, parce que à ce moment-là, de tout temps, le marché américain, ce ne serait que mercantile, le européen que mercantile, et tout d'un coup, quand c'est africain, ça devient mercantile.
Mais de toute façon, c'est très bien qu'on puisse acheter de l'art contemporain pour que les artistes puissent vivre. Enfin, il n'y a aucun problème pour qu'il y ait un marché de l'art.
Mais vous nous expliquez qu'il y a une fiction de l'art africain, qu'au fond, les artistes africains sont africains par hasard, que ce soit avant tout des artistes contemporains, que finalement, ils pourraient être belges ou luxembourgeois, ça reviendrait au même.
Mais c'est un label qui fonctionne. C'est un label qui fonctionne.
Et qui permet d'identifier
certaines institutions.
Juste par rapport à
dire africain, ça facilite les choses.
Juste par rapport à cette histoire de marché, j'ai vu que vous pointiez du doigt tout à l'heure, Nabil Boutros.
Je veux juste rajouter que si la France, ce pays que j'aime, dans lequel je vis, a du retard à ce point de vue-là, c'est parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été mises sur la table, ni réglées. Je ne parle même pas ni d'Algérie, ni de l'ancien passé colonial. C'est étonnant comme cette chose-là n'a pas été simplement posée sur la table. Peut-être que les anglo-saxons ont fait ça avec beaucoup plus de liberté et qu'ils n'étaient pas impliqués dans le sens humanitaire du terme, de vouloir apporter les lumières au monde. Eux, ils étaient simplement des marchands qui ont exploité les ressources pour les fabriquer et retrouver un marché. Ce qui n'était pas exactement le cas de la France. Donc, je pense que le problème pourrait
commencer à ce moment-là. Voilà. Katia Kamedi, quel type d'œuvre justement vous présentez dans le cadre de ces expositions? Qu'est-ce qu'on vous a demandé?
Alors, qu'est-ce qu'on m'a demandé? En fait, on m'a demandé une œuvre que j'aime beaucoup, qui s'appelle The Storyteller, en fait, qui est montrée donc à la Villette, et où justement, en fait, il ne s'agit pas, il s'agit un peu de faire le tour un peu du monde plutôt. et plutôt que de rester sur un territoire bien précis. Et ça, de toute façon, en fait, c'est présent dans mon travail, parce qu'en fait, je suis plus intéressée par les espaces qu'on peut projeter, les territoires qu'on crée, plutôt que les territoires imposés et les boîtes dans lesquelles on aimerait nous mettre.
Deux mots concrètement.
Alors,
le storyteller, donc ça se passe à Marrakech. J'ai rencontré un conteur, voilà, qui officie normalement sur la place Jemaa el-Fna, et qui en fait a comme pour spécialité de raconter des films. Donc voilà, je lui ai demandé, et en fait il raconte plus particulièrement des films de Bollywood. Donc on pourrait se demander pourquoi le Bollywood à Marrakech. Alors bon,
il y a toute une histoire, hein, du Bollywood, vraiment justement dans les pays du Maghreb, véritablement.
Voilà, exactement. Il y a tout un tas d'histoires à raconter là-dessus. En tout cas, je lui demande de raconter un film qui est un film culte dans le Bollywood, qui s'appelle Dosti, qui est un film de Satyendra Bose, un classique en noir et blanc. 3h30 de dramaturgie, bon voilà. Mais en fait, Dosti, c'est un peu lui qui raconte sa propre histoire, puisque dans Dosti, il s'agit de deux gosses qui, à un moment donné, arrivent à s'en sortir dans la vie, parce qu'il y en a un qui sort son harmonica et l'autre qui se met à chanter, et qu'il y a un cercle qui se forme autour d'eux, et que voilà, et que les gens leur donnent un peu d'argent, et qu'ils arrivent à reprendre leurs études et à réaliser leurs rêves. Alors, il se trouve qu'en fait, le storyteller, en arabe, ça s'appelle la harqa, et donc, littéralement, ça veut dire faire le cercle autour de soi. Et je lui demande, bien précisément, de raconter cette histoire dans un endroit très particulier,
qui est
dans le Théâtre Royal de Marrakech, donc en fait, qui, à la base, est une demande d'Hassan II pour avoir un opéra à Marrakech. On se demande à qui ça peut être bien dédié. Et en fait, la drôlerie de tout ça et de ce lieu, c'est qu'en fait, donc il a demandé à un architecte tunisien de réaliser une sorte de copie de l'Opéra Garnier, qui a été foirée dans la réalisation. Donc en fait, c'est une coquille en béton qui n'a jamais été terminée. Exactement. À l'extérieur, on a l'impression que c'est une sorte de tarte à la crème rose, et à l'intérieur, c'est du béton, il y a des balcons, mais voilà. Ça n'ouvrira jamais. Donc, en fait, voilà, c'est un lieu qui a été un peu récupéré par l'art contemporain.
André Magnin ?
Je voudrais revenir à une chose qui m'est importante. C'est ce que vous dites, c'est que Simon Jamy dit, je ne comprends pas que la France a un tel retard. Mais alors, quand même, la France est quand même le pays où, depuis plus de 30 ans, nous montrons des artistes venus d'Afrique, bien avant Magicien de la Terre. Pierre Gaudibert l'a fait au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris. Magicien de la Terre, tu l'as fait avec la Figaro UX, nous l'avons fait avec la Fondation Cartier, maintenant avec la Fondation Vuitton. Aucun pays du monde n'a montré autant d'artistes africains que la France. Alors je vois pas où elle, le chien du retard, il est en Chine, il est aux États-Unis, il est à Londres, il est en Allemagne, il est, mais pas en France.
Vous gardez votre réponse pour quelques instants, Simon Jamy ?
Je garde ma réponse.
Très bien, parce que tout de suite, on l'appelle l'idole des jeunes, mais ce serait plutôt de la mauvaise graine. En tout cas, c'est son titre, Nekfeu.
À 16 ans j'ai dû voir un psy, mauvaise graine. À 6 ans j'ai dû voir un psy, j'ai dû voir un psy. À 16 ans j'ai dû voir un psy, mauvaise graine. Alors je mords le métal, j'ai pas besoin de leur merde dans le mental. J'ai connu la galère et je n'en redemande pas. Je sais que devenir quelqu'un demande énormément de taf. Mauvaise graine, j'ai pas la tête de l'emploi. La mort vient scred, mais la mort ne ment pas. Les mots m'espèrent, la monnaie monumentale. Avant d'avoir le respect, c'est d'avoir le mental. Mais mauvaise graine, tu lèveras des montagnes. Je veux voir le mauvais chemin déçu par nos voix. On ne confond pas l'honneur et l'orgueil. On a tous dans le cœur le rayonnement des supernovas. J'ai côtoyé des gens qui parlaient d'amitié mais qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi. Ceux qui te font rigoler quand tout va bien mais qui ne seront jamais là quand le malheur te noie. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur. Oh mes mauvaises lettres. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur. Y'avait des mecs dangereux chez mes ennemis. Un jour ils ont commencé à menacer ma mif. Alors je me suis armé par le biais d'un ami. Mais Dieu merci, je m'en suis jamais servi. Faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas, nous-mêmes on se connaît pas. J'ai fumé trop de shit noir mais je suis népale. Quand la galère te transforme en épave. On n'aime pas quand la coke passe dans le nez paf. La monnaie part comme on épargne, ce monde débarche. On mérite seulement des baffes. Mauvaise graine.
pas de trêve. Mauvaise graine ne veut pas de trêve.
Ce soir dans ton tiroir tu foudras ta flasque graine. Avant de t'endormir elle t'en voudra ta femme. L'équipe était prête à prendre la foudre à ta place. Mais t'as fait le traître alors on floutera ta face.
J'ai côtoyé des gens qui parlaient d'amitié mais qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi. Ceux qui te font rigoler quand tout va bien mais qui ne seront jamais là quand le malheur te noie. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur. La mort avant le déshonneur, la mort avant le déshonneur.
Pardonnez-moi, je n'ai pas l'esprit cartésien. Je viens de Paname, y'a pas de quartier sain. Moi je ne veux qu'une femme, mais je ne suis qu'un homme. Si je vois pas ton âme, je regarde tes seins. On les taquine, mais les femmes on respecte. Ne crois surtout pas qu'on aime cette image dégradante. C'est super triste, moi je pense à ma sœur, la meilleure supportrice, tout en haut des gradins.
T'es noir dans l'alcool, moi je faisais de même. Est-ce que dans ta tombe, t'assumeras les relevés? On m'a viré de l'école depuis déjà deux mois. Mais maman vient de tomber sur mes relevés.
Man attention, ça t'amène à détention. Parmi les gars d'époque, y'en a pas mal en détention. Maintenant le jeune grec fait de la manutention. Mauvaise graine, je veux m'évader dans le son. Viens dans ma dimension. Le même sur scène ou en loge. Le même pied nu ou en Nike. Mon ami le talent. Il faut qu'en parler. Nous on l'a, on a freestyle. Et dans l'allée de l'eau en large on est. Le même sur scène ou en loge. Les mêmes pieds nus ou en Nike. Mon ami le talent. Il faut qu'en parler. Nous on l'a, on a freestyle. Et dans l'allée de l'eau en large oui.
Maman m'a dit ne trahis pas ton éducation. Voilà pour la famille dans la vie c'est une obligation. Je ne comprends pas pourquoi tu agis comme un mauvais garçon. Je ne voudrais jamais de tes cadeaux tomber
jamais, du jamais.
À 6 ans j'ai dû voir un psy, j'ai dû voir un psy.
À 16 ans j'ai dû voir un psy, j'suis une mauvaise graine.
À 6 ans j'ai dû voir un psy, j'ai dû voir un psy.
Nekfeu a donc vu un psy dans Mauvaise Graine, un extrait de son dernier album Cyborg. Nekfeu qui sera en concert dans les festivals cet été, notamment le 15 juillet, ce sera au Francofolie de La Rochelle.
NRV, le nouveau rendez-vous.
Usually people have on their walls paintings that other people recognize. In the old days they used to have a Renoir or a Sisley, then they had a Warhol and a Liechtenstein. I had no interest in trying to show the same collection as all of my other friends. I was interested in making a collection that was completely different.
Sur France Inter.
Bon, vous avez compris, hein,
c'était pourtant, la voix de Français.
C'est, oui, oui, c'est la voix de Jean Pigozzi, grand collectionneur, un des premiers véritablement en France à s'être intéressé à l'art contemporain africain. Il disait, hein, tout le monde pouvait s'acheter des Warhol, des trucs comme ça, n'importe quel pharmacien des États-Unis. Moi, ce que je voulais, c'était vraiment créer une collection qui ne ressemblait à rien, à personne et quelque chose de nouveau. On parle donc toutes ces expositions qui ont lieu en ce moment à Toulouse, à Lille et à Paris autour de l'art contemporain africain. Avec vous, Simon Njami, vous êtes commissaire d'exposition. Nabil Boutros et Katia Kameli, tous les deux artistes. Et puis le galeriste André Magnin qui est aussi, j'allais dire, collectionneur, non, qui est aussi commissaire d'exposition. Puisqu'on parle de Pigozzi, qui est un des premiers collectionneurs, est-ce qu'il existe aujourd'hui aussi des collectionneurs africains? Parce que qui dit marché de l'art, il faut qu'il y ait un marché de l'art pour faire vivre les artistes, mais est-ce qu'il y a aussi cette conscience des collectionneurs en Afrique?
Simon, bien sûr, il existe des collectionneurs africains. C'est toujours amusant d'entendre John Pigozzi parler avec son accent un peu suisse, comme ça, en anglais.
Il n'a jamais habité en Suisse.
Non, il n'a jamais habité en Suisse, je sais bien.
Mais c'est vrai qu'il a une nonchalance toute suisse dans la façon de s'exprimer, notamment en anglais.
Non, il a collectionné tellement de choses. Enfin, oui, il y a des...
C'est vrai.
Il y a des collectionneurs du côté du Japon. Il y a des collectionneurs africains, évidemment, dont le plus intéressant, à mon sens, est Syndicato Colo, qui a la collection d'art contemporain qui me paraît la plus intéressante. Il y avait une habitude de collectionner dans les pays un peu bizarres quand on parle de pays. En Afrique du Sud, il y avait des collections nationales, il y avait des collections des diamantaires, etc., etc. Mais évidemment, le problème de leur collection, c'est que contrairement à la photographie classique, c'était pas en noir et blanc, c'était en blanc tout court. Mais voilà, il y a une de jeunes générations. Ce n'est pas seulement au niveau de la collection, mais c'est aussi au niveau de la curation.
Mais les collectionneurs africaneurs collectionnait-il les œuvres d'artistes noirs ?
Ah non, quelle horreur !
Ah oui, d'accord.
Ah
ouais,
oui, rendez compte, ça aurait pu tacher sur leur chemise blanche. Mais ils ont accumulé pas mal de choses. Mais il y a une génération, disais-je donc, qui collectionne d'une manière presque politique. Sinica d'Okolo, qui collectionne...
Quel est son métier ?
Son métier, c'est homme d'affaires.
D'accord, donc c'est un homme d'affaires qui collectionne, comme
partout. Donc son objectif, bon, d'une part, il y a l'art contemporain qu'il collectionne, et d'autre part, il s'est dit, plutôt que de décider ou de discuter en vain de la restitution des objets classiques, il a dit, ouais, je vais les racheter, donc il rachète de temps à autre cette mémoire qui a été perdue, parce que vous avez mentionné tout à l'heure la première foire de
André Magnin, vous avez un problème avec votre micro. Que vous tripotez beaucoup, ça fait beaucoup de bruit en fait quand on entend. Mais oui, c'est pour ça.
Non, vous mentionniez tout à l'heure la première foire de Johannesburg à laquelle j'étais vaguement.
Oui, parce qu'il y a des foires qui ont lieu sur le continent africain, Johannesburg et aujourd'hui Marrakech. Mais il y a eu Lagos aussi.
Mais l'une des choses que j'avais dites à Johannesburg, je disais à mes petits camarades qui avaient un peu de sous, c'est que l'art classique, qu'il soit au musée du Quai Machin ou hein, on n'y pouvait rien, ils sont venus avec des flingues et des croix. Mais que si l'art contemporain, il faut aller le voir plus tard pour les générations à venir, à la Tate ou à Beaubourg ou ailleurs, là, ils auront leur part de responsabilité. Et donc, il est important aujourd'hui pour les Africains de collectionner, afin qu'il y ait dans les futurs musées ou dans des espaces en Afrique,
exactement,
de l'art fabriqué par
Juste
Africains.
Une remarque, j'ai l'impression qu'il y a moins de nationalisme noir dans l'art africain, enfin en tout cas celui que j'ai vu, que dans par exemple l'art afro-américain.
Écoutez, quand vous êtes en Afrique, vous savez, il y a une chose formidable que James Baldwin m'a raconté un jour. Il me dit, j'ai découvert que j'étais noir en sortant de Harlem. Vous voyez, les Africains qui sont dans la partie noire de l'Afrique, ils n'ont pas de problème avec la négritude, sauf Senghor, mais lui, il vivait en France. Donc
et pourtant, tous les Africains ne sont pas noirs.
Évidemment.
Parce que nous avons là deux artistes, évidemment. Nabil Boutros et vous. Et Katia Kameli, qui ne sont pas noirs, puisque l'un est égyptien, l'autre est
franco-algérienne.
Et c'est justement quelque chose qui est assez intéressant de voir, et ça n'est pas tellement présent hein, du côté de la Fondation Louis Vuitton, mais c'est plus présent justement à la fois à la gare Saint-Sauveur et à la Villette, c'est-à-dire le fait que généralement quand on parle d'art contemporain africain, on parle surtout de l'Afrique du Sud, et pour autant, l'art contemporain africain passe aussi par le Maghreb. C'est quelque chose qui commence à évoluer, vous le sentez, Katia Kameli ?
Oui, ça commence à évoluer, doucement. Doucement, ouais.
Par exemple, en Algérie ou en Égypte, il y a une conscience africaine, qu'il y a des expositions, les artistes se sentent africains. On n'a pas cette impression-là.
Parler de l'art et l'Algérie, c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de lieux, il n'y a pas de collectionneurs réellement, qu'il y a des artistes, que souvent, en fait, c'est en s'exportant qu'ils arrivent à avoir de la visibilité et à montrer leur travail et à continuer leur travail. Donc là, bon, c'est un peu plus difficile. Après, il y a eu un gros événement en Algérie qui s'appelait le Panafricain et qui a été donc deux fois et qui a été quelque chose d'important. Donc en fait, oui, les Algériens et je pense que les Maghrébins se sentent africains. C'est leur continent aussi.
Alors pourquoi ils ont été exclus pendant tant de temps de cette histoire de l'art contemporain africain, Nabil Boutros?
Je suis désolé, je ramène toujours des histoires sordides. Si vous lisez un peu comment les Nord-Africains considéraient le continent subsaharien, la partie subsaharienne de ce continent dit africain, et écoutez, l'histoire elle est lourde. Donc aussi de ce côté-là, ils ont aussi participé à la traite et ils ont aussi considérés comme des gens sous-humains pendant longtemps. Et ça, c'est resté, ce racisme-là, il existe encore dans tous les pays du Maghreb et de l'Afrique du Nord. Donc je suis désolé, ils se sont africains quand ça les arrange politiquement. Mais de temps en temps, en tout cas les artistes eux-mêmes, ils voient très bien, différemment des hommes politiques, ils voient qu'ils ont affaire beaucoup plus à cette racine-là, comme une racine profonde un peu oubliée. et contrairement aux hommes politiques qui, eux, veulent capitaliser sur ce panafricanisme qui serait algérien, qui serait libyen, comme Kadhafi et les autres. Bref, ou même le Royal Air Maroc, qui veut absolument faire relier l'Afrique. Bon, je cite des choses comme je suis un peu rabat-joie, je suis désolé.
Hein. Pas du tout.
C'est intéressant.
Ouais. Simon Jamy, ouais, c'est très intéressant. Non, ça replace le débat.
C'est complètement vrai.
Tu as un rythme formidable. Non, mais ce qui me paraît intéressant, Katia mentionnait le PANAF. Il y a eu 3 manifestations panafricaines qui ont eu lieu, dont l'une en Algérie en 69 et une deuxième récemment. Mais je crois que le fameux panafricanisme dont on parle et dont on nous rabat les oreilles n'existe pas dans les institutions. L'Union africaine, c'est du blabla, etc. Je crois qu'il est fabriqué par les artistes. Ce sont les artistes dans une circulation dont on ne parle pas ici, dans une conscience, il y a une circulation, sud-sud, pour employer des destinations comme ça, qui est de plus en plus grande, où des choses se passent au niveau du continent africain, dans des circulations à l'intérieur du continent africain, où les gens apprennent à se connaître. Parce qu'il est arrivé que des gens disent « je suis africain » sans connaître grand-chose de ce qu'était l'Afrique.
Eh bien, merci à vous tous. Ce sera le mot de la fin. Merci, Simone Jamy. Ben oui, Katia Camilli et Nadine Boutrous. On vous retrouve tous à Afrique Capitale, à la Villette à Paris, jusqu'au 28 mai, à la Gare Saint-Sauveur de Lille, jusqu'au 3 septembre. André Magnin, Art Afrique, le nouvel atelier. C'est à la Fondation Louis Vuitton à Paris, jusqu'au 28 août.
Je peux encore dire quelque chose?
Je peux dire une chose, moi aussi.
Bah non, ça va être difficile. La voix de Patti Smith, tout de suite, c'est l'écriture de Kurt Cobain. Quand deux grands esprits se rencontrent, c'est un nouveau rendez-vous.